Vous écoutez On lit pour vous.
Une étude controversée sur la surmortalité pendant la COVID est retirée. Un texte de l'agence France-Presse paru le 12 août 2026 dans Le Devoir. Une étude parue en 2024 sur la surmortalité pendant la COVID, qui avait été critiquée pour prêter le flanc à des thèses vaccino-sceptiques, a finalement été retirée, a annoncé mercredi le 12 août 2026 l'éditeur de la revue où elle avait été publiée. Cette étude, parue dans la revue BMJ Public Health, a été dépubliée, car elle témoignait de désinformation sur les causes possibles de la surmortalité et n'était basée que sur une quantité limitée de travail original, a expliqué dans un communiqué le groupe BMJ. Ce groupe édite le BMJ Public Health, un journal spécialisé en santé publique. Il est distinct du prestigieux British Medical Journal, l'une des plus grandes revues médicales qui a le même éditeur. Le BMJ Public Health avait publié en 2024 une étude qui avançait que, dans plusieurs régions du monde, la surmortalité était restée anormalement élevée au cours des années suivant le pic de la crise de la COVID-19. Cette étude avait été citée par de nombreuses publications vaccino-sceptiques en ligne qui affirmait qu'elle faisait directement le lien entre surmortalité et vaccination contre la COVID. Même si l'étude n'explicitait aucun lien de la sorte, ses auteurs s'interrogeaient sur la persistance de la surmortalité malgré la mise en œuvre de mesures de confinement et de vaccins contre la COVID-19, appelant les décideurs politiques à publier des données plus précises qui permettraient de creuser un rôle supposé de ces deux derniers éléments. Cette ambiguïté avait suscité de multiples critiques, l'accusant de prêter le flanc à des attaques infondées contre les vaccins contre la COVID qui ont, de manière avérée, sauvé des millions de vies depuis le début de la crise. La méthodologie employée pour calculer la surmortalité avait aussi été mise en cause. Le BMJ Group avait déjà annoncé qu'il enquêtait sur cette étude et le Centre d'oncologie pédiatrique Princesse Maxima, auquel sont affiliés trois des quatre auteurs, avait fait de même. Finalement, l'éditeur qui avait déjà publié un avertissement appelant à la prudence sur cette étude a décidé qu'elle devait purement et simplement être dépubliée, le niveau de désaveu le plus cinglant dans la littérature scientifique. La décision de retrait est soutenue par deux des quatre auteurs et par le Centre Princesse Maxima, a précisé le BMJ Group. C'était une étude controversée sur la surmortalité pendant la COVID est retirée, un texte de l'agence France-Presse paru le 12 août 2026 dans Le Devoir.
Le coût des assurances habitation a grimpé plus rapidement que l'inflation. Un texte de Félix Côté, paru le 16 juin 2026 dans InfoBref. Selon Statistique Canada, les primes d'assurance habitation et d'assurance hypothécaire ont augmenté de 45% de 2019 à 2025. C'est deux fois supérieur à l'inflation globale de 21% enregistrée sur la même période. Deux principaux facteurs expliquent la hausse importante du coût des assurances, l'augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des coûts de construction, de remplacement et de réparation des habitations. C'était « Le coût des assurances habitation a grimpé plus rapidement que l'inflation », un texte de Félix Côté, paru le 16 juin 2026 dans InfoBref.
Des éléphants sans défense, un texte de la rédaction paru le 15 décembre 2021 dans Québec Science. L'éléphant de savane en Afrique a évolué à la vitesse grand V depuis la fin des années 70 et l'humain en serait le principal responsable. Si un jour vous faites un safari photo en Afrique, vous pourriez bien voir des éléphants dépourvus de défense. Alors que le processus d'évolution agit normalement sur des dizaines, voire des centaines de générations, la pression imposée par le braconnage en Afrique semble avoir favorisé la sélection de femelles dépourvues de défense au sein des populations d'éléphants en seulement 15 ans. Pour en arriver à cette conclusion, des chercheurs ont étudié le patrimoine génétique de 18 femelles dans le parc national Gorongosa au Mozambique. Théâtre d'une guerre civile entre 1977 et 1992, la région était toute désignée pour leur étude. Les éléphants y ont été impitoyablement chassés pour l'ivoire de leur défense, vendus sur le marché noir afin de financer les conflits armés. À l'issue de cette guerre, plus de 90% des éléphants de la région avaient été massacrés, la population passant de 2000 à 200 individus. Et parmi les femelles survivantes, la moitié était dépourvue de défense. Logique, ces femelles ne valant rien aux yeux des braconniers, ils ne les ont pas chassées. Dans la population actuelle des éléphants de savane, ce biais est maintenant évident. 33% des 91 femelles nées après la guerre n'ont pas de défense, alors que cette proportion n'était que de 18,5% avant la guerre. Mais pourquoi seulement des femelles? Dans leur étude, les chercheurs ont constaté que la mutation à l'origine de la perte des défenses se situe sur le chromosome sexuel X et que lorsque ce chromosome muté est transmis à un descendant mâle, il est fatal pour l'embryon qui ne survit pas. Voilà pourquoi les scientifiques n'ont observé que des femelles dépourvues de défenses. La cause exacte de la létalité chez les mâles n'a pas été élucidée par l'étude. Tu te dis peut-être que si les femelles n'ont plus de défense, tant mieux, cela les protège du braconnage. Mais cette évolution rapide n'est pas nécessairement une bonne chose. D'abord, comme la mutation est fatale pour les embryons mâles, sa présence plus fréquente dans la population mène à une baisse générale des naissances et à un déséquilibre des sexes. Il naît plus de femelles que de mâles. Ensuite, les éléphants de savane sont de véritables ingénieurs de l'environnement. Sans leur défense, ils ne remuent plus le sol et ne se nourrissent pas des mêmes choses, ce qui peut mener à de profonds changements de l'écosystème. C'était « Des éléphants sans défense », un texte de la rédaction paru le 15 décembre 2021 dans Québec Science.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août. En 1991, indépendance du Kirghizistan. Le Kirghizistan proclame son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, alors en pleine dissolution. Cette déclaration s'inscrit dans la vague d'indépendance des républiques d'Asie centrale survenue après l'échec du coup d'État contre Gorbatchev. Le pays entame dès lors une transition vers un régime démocratique et une économie de marché. Cette date est depuis célébrée chaque année comme fête nationale kirghize. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août.
Un camp musical intergénérationnel à l'épreuve du temps. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 18 août 2026 dans Le Devoir. Sur une petite plage, un père et sa fille s'amusent à construire des châteaux de sable au son d'un piano et d'une voix féminine. Devant eux s'étend le grand lac McDonald. À quelques mètres, dans un pavillon adjacent au canot, un cours de chant se déroule. Une dame interprète une œuvre de Louise Forestier sous les directives exigeantes de sa professeure. Du 28 juin au 23 août, dans une quinzaine de studios, dans les chambres, sur les balcons et même dans un camping, la musique résonne de 7h à 23h dans ce vaste site de villégiature de la municipalité de Harrington, dans les Laurentides. Bienvenue chez CAMAC, lance Kim Duhem, responsable des communications pour le Centre musical, qui organise 8 semaines de camps bilingues et intergénérationnels. Avec la directrice artistique Guylaine Lemaire, Madame Duhem rencontre le devoir dans le pavillon principal pour lui faire visiter ce camp qui rassemble des musiciens amateurs et des professeurs chevronnés. CAMAC, pour Canadian Amateur Musician, musicien amateur du Canada, a été fondé en 1953 par 2 musiciens professionnels, George et Carl Little. Sa particularité, c'est qu'il est essentiellement familial. Cette semaine-là, il y a 81 adultes, 24 enfants et 15 ados parmi les 120 participants qui viennent surtout du Québec et de l'Ontario, mais aussi d'autres provinces et pays. La plus jeune a 4 ans et le plus vieux a 90 ans, souligne Madame Le Maire. En 2025, il y avait une dame de 98 ans qui jouait du clavecin. Plusieurs artistes connus ont fréquenté le camp dans leur jeunesse, dont Yannick Nézet-Séguin, Grégory Charles, Cœur de Pirate et Nicolas Ellis. Dans l'entrée, toutes sortes d'instruments à cordes et à vent sont laissés avec confiance par leurs propriétaires en attente des leçons qui les mettront en valeur. Et il ne manque pas d'options de discipline et de niveau à CAMAC. La musique classique domine généralement la programmation, mais comprend également du yoga, de la danse et des sports nautiques. Cette semaine-là, le thème est le jazz à la rencontre du classique. De l'engrais pour les jeunes. Quand Kim Duhem ouvre la porte de la salle principale qui offre une vue sur le lac, un combo jazz débutant répète pour un concert qui aura lieu en fin de semaine. À l'étage inférieur, dans un cours d'improvisation avancé, un coach désigne les musiciens un par un quand c'est leur tour de briller. Dans un petit studio, 4 filles de moins de 10 ans apprennent une pièce de leur choix. Lady Gaga à la côte. L'une des élèves est aussi fière de présenter sa nouvelle composition. Un peu plus loin, une dizaine d'adolescents improvisent sur le thème de « La panthère rose », notamment au piano, à la guitare, à la trompette, à la flûte et à la voix. Selon leur professeur Craig Girardin, le camp CAMAC est du super engrais pour les enfants. Ils sont vraiment engagés, ils ont envie de tout essayer. Ils se sentent en sécurité pour s'exprimer sans se faire juger. On les amène aussi loin qu'on peut en partant de leur niveau. Il y a beaucoup de progrès en une semaine, dit celui dont les 2 enfants fréquentent eux-mêmes le camp depuis leur jeune âge. Sa collègue, Virginie Proulx-Tremblay, participe à l'entrevue avec son bébé de 4 mois dans les bras. « C'est ma 2e famille. Ça fait 20 ans que je suis ici et mon plus grand rêve, c'était que mes enfants viennent à CAMAC. C'est la première fois que ça arrive », se réjouit-elle. J'ai été monitrice d'enfants de 4 ans qui viennent encore ici à 25 ans. Je les ai vus grandir. Les parents et les enfants se retrouvent parfois dans les mêmes cours à découvrir ensemble un nouvel instrument. Ça a été le cas de Nancy Michaud et de ses fils, aujourd'hui adolescents, qui ont suivi le programme pour enfants dès leurs 4 et 6 ans. On attend avec impatience toute l'année pour venir ici à Surcelle qui loge dans une roulotte pendant son séjour. Elle remarque que ses fils ont développé ici des amitiés fortes. Elle a aussi incité sa mère, âgée de 81 ans, à profiter de ce cadre enchanteur et à chanter dans la chorale. Je vois que ça fait une grosse différence dans son bien-être et son développement cognitif, dit Nancy Michaud. Des passions de longue date. Hélène Châteauvert revient à Camac presque chaque année en famille depuis 43 ans. Je jouais de la guitare classique en mettant les pieds ici. Quand j'ai vu qu'il y avait un orchestre, je me suis mise à jouer du violoncelle, raconte-t-elle en sortant d'un atelier de percussion dans un chalet en bois au milieu de la forêt. Je chante aussi dans le chœur métropolitain et dans un orchestre de cordes à Montréal. C'est un passe-temps qui remplit bien nos vies. Approchant la soixantaine, Madame Châteauvert apprécie le fait qu'elle puisse partager sa passion avec des gens de toutes les générations et lier des amitiés tant avec des professionnels qu'avec d'autres étudiants. C'est un endroit tellement décontracté. Il n'y a pas de compétition. C'est ce qui fait qu'on revient d'année en année, explique-t-elle. Dans cette ambiance, sans pression, des musiciens de haut niveau transmettent leur savoir au camp Camac, au sein du corps professoral de plus de 160 membres. Pour le contrebassiste et professeur Adrian Vedadi, l'enthousiasme des musiciens amateurs est contagieux. On les voit courir d'un cours à l'autre avec un gros sourire aux lèvres. Ça nous rappelle pourquoi on fait ce travail-là. Parce qu'on adore ça. Un coût non négligeable. Chaque été, Camac, qui est un organisme à but non lucratif, distribue des bourses pour aider des musiciens à participer au camp malgré leurs revenus modestes. Cette année, le prix courant pour avoir accès au programme complet d'activités était de 595 $ par adulte. Différents tarifs s'appliquent aux enfants et aux adolescents. Les participants ont en outre diverses options d'hébergement, dont des chambres et des emplacements de camping. L'organisme propose aussi des concerts et des activités musicales à d'autres moments de l'année. Un camp musical intergénérationnel à l'épreuve du temps. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 18 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre. En 1961, l'URSS reprend les essais nucléaires atmosphériques. L'Union soviétique met fin à son moratoire sur les essais nucléaires en procédant à une explosion atmosphérique en Asie centrale. Cette reprise des essais intensifie considérablement la course aux armements nucléaires entre les deux blocs de la guerre froide. Elle s'inscrit dans un contexte de vives tensions internationales, notamment autour de la question de Berlin. Cet épisode relance également les débats sur les dangers environnementaux et sanitaires des essais nucléaires. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre.
Sommeil, les bases expliquées par un médecin. Un texte de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, paru le 26 mai 2026 sur la plateforme Togo. Quand le sommeil se dérègle, on cherche souvent une solution rapide. Pourtant, en consultation, on revient presque toujours à des bases simples.
comprendre ce qui se passe, revoir certaines habitudes et avancer par petits pas. On en discute avec le docteur Simon Benoît, médecin de famille. Lorsqu'une personne consulte pour des difficultés liées au sommeil et ne sait pas par où commencer, comment l'aidez-vous à faire ses premiers pas? Je commence par expliquer qu'on peut parler des difficultés liées au sommeil de deux façons. La première, il y a d'abord certains problèmes de santé qui peuvent entraîner des troubles du sommeil. Ces troubles sont définis médicalement et ont des critères précis. Ils impliquent une évaluation plus approfondie, parfois des questionnaires, des examens ou des tests, ainsi qu'un suivi médical adapté. La deuxième, puis il y a les difficultés de sommeil liées à notre gestion du quotidien. Beaucoup de personnes peuvent les vivre, par exemple, lors de périodes plus stressantes ou exigeantes. Les deux ne se gèrent pas de la même manière, et nous nous attarderons ici aux troubles liés à notre quotidien. Le plus important pour traiter ces difficultés, c'est d'identifier une ou deux habitudes sur lesquelles il est possible d'agir sans que ça devienne écrasant. Les changements durables pour mieux dormir prennent du temps, mais ils donnent des résultats plus solides que les solutions rapides. Quel mythe ou erreur entendez-vous le plus souvent au sujet du sommeil? Un mythe fréquent, c'est de croire qu'il faut absolument dormir au minimum 8 heures par nuit. En réalité, les besoins peuvent varier d'une personne à l'autre et on doit s'attarder autant, sinon plus, à la qualité du sommeil qu'à sa quantité. Un autre mythe très répandu concerne l'alcool ou le cannabis pour dormir. Ces substances peuvent donner l'impression d'aider à court terme, mais on sait qu'elles modifient les phases du sommeil et qu'elles augmentent l'anxiété à long terme. Ce sont des stratégies qui fonctionnent rapidement, mais qui finissent souvent par aggraver les difficultés. On me demande aussi souvent si un somnifère peut aider. Dans certains cas précis, oui. Sur une très courte période, par exemple une semaine, pour traverser un stress aigu et casser l'anticipation de la mauvaise nuit. Mais ces médicaments ne sont pas une stratégie à moyen ou long terme. Ils agissent rapidement, parfois dès le premier soir, mais ils peuvent réduire le temps passé en sommeil réparateur. Et quand l'utilisation se prolonge, le risque augmente, dépendance, baisse d'efficacité et, selon des études récentes, troubles neurocognitifs plus précoces. Est-ce normal de vivre des périodes où on dort moins bien? Oui, tout à fait. Le sommeil est très sensible au stress, aux changements d'horaire et aux périodes de surcharge. Traverser des nuits plus difficiles ne veut pas dire automatiquement qu'on est aux prises avec un trouble du sommeil ou qu'il faut médicaliser la situation. Ce qui devient plus préoccupant, ce sont les difficultés qui persistent, qui s'aggravent ou qui nuisent visiblement au fonctionnement quotidien. À ce moment-là, consulter permet de vérifier s'il existe une cause sous-jacente et d'orienter les interventions. Les consultations sont courtes. Comment arrivez-vous à intervenir malgré tout? Avec l'expérience, on apprend à aller à l'essentiel. Je m'adapte beaucoup aux personnes devant moi. Certaines ont besoin d'explications très concrètes, d'autres d'une réflexion plus globale. L'important, c'est que la démarche ait du sens pour la personne concernée. En quelques minutes, on peut introduire une idée clé. Le sommeil ne fonctionne pas en vase clos. Il est étroitement lié à l'activité physique, au stress, à l'alimentation, aux écrans et à la routine quotidienne. Une seule prise de conscience peut parfois suffire à amorcer un changement. Quelles habitudes simples peuvent vraiment améliorer le sommeil? Bouger au quotidien. Bouger chaque jour est l'un des leviers les plus efficaces et les plus accessibles pour mieux dormir. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner de façon intensive. Marcher, se déplacer à pied, utiliser les transports en commun et bouger chaque jour aide le corps à retrouver un meilleur équilibre. Le corps humain n'est pas conçu pour la sédentarité. encadrer l'utilisation des écrans. Je suggère aussi de mieux encadrer l'utilisation des écrans et des réseaux sociaux. Plutôt que d'y être en continu, je propose à la personne de se donner un rendez-vous réseaux sociaux dans la journée à un moment précis. L'objectif, réduire le bruit mental et s'accorder de vrais moments de ralentissement pour faire le vide. Mettre en place une routine du soir. La routine du soir joue aussi un rôle important. S'abstenir d'utiliser les écrans au moins une heure avant le coucher, tamiser l'éclairage, éviter de manger juste avant le coucher, limiter la caféine et l'alcool sont autant de façons de faciliter le sommeil. Méditer avant de se coucher. La méditation fait également partie des outils que je propose souvent. Il existe plusieurs façons de méditer, mais l'idée centrale est d'apprendre à calmer l'activité mentale pendant quelques minutes. Les données montrent que la méditation peut améliorer le temps d'endormissement et la qualité du sommeil. Les effets apparaissent graduellement avec la pratique. Et ça fonctionne? Oui, mais je rappelle que les changements liés aux saines habitudes de vie n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut souvent compter de 4 à 6 semaines avant de sentir un réel effet sur le sommeil, même si l'envie d'une solution immédiate est bien compréhensible. Ce sont toutefois ces ajustements répétés dans le temps qui offrent les bénéfices les plus durables. Quelles habitudes simples peuvent vraiment améliorer le sommeil? Ne pas viser la perfection. Il est préférable de ne pas tout changer en même temps. On choisit une habitude, on l'intègre, puis on passe à la suivante. Bouger au quotidien constitue souvent un point de départ simple et efficace. Et vous, qu'est-ce qui vous aide à décrocher le soir? Jouer de la guitare. Souvent, je joue quelques minutes dans le lit avant de m'endormir. Ça m'aide à faire le vide, à me recentrer et à envoyer un signal clair au cerveau que la journée se termine. Puis je mets mon loup sur mes yeux avant d'éteindre. J'ai découvert cet accessoire il y a quelques années et je ne m'en passerai plus. Chez les personnes au sommeil léger, comme moi, limiter l'entrée de la lumière peut faire une réelle différence sur la durée et la qualité du sommeil. C'était « Sommeil, les bases expliquées par un médecin », un texte de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec paru le 26 mai 2026 sur la plateforme Tougo.